Merci beaucoup. Qu'est-ce que ce sera quand on sera au ciel, tous ensemble, une multitude d'hommes et de femmes, de toute tribu, de toute culture, un seul peuple, pour louer et adorer le Seigneur. Waouh. Ça va être grand et fort, oui, et bon. Alors, on se prépare à ça. Ça va, vous allez bien? Oui, oui. Et même si ça ne va pas, quand le Seigneur est en train d'installer sa victoire, je ne peux être que victorieux. Ça va se traduire dans ta vie. Ça va se traduire dans ta vie. N'aie pas peur. Xavier, allez. Seigneur, je te prie pour ta parole. Parce que tu nous l'as laissé. C'est une parole de vie, Seigneur. Et quand on l'ouvre, quelque chose doit se passer. Ton esprit doit illuminer le nôtre pour qu'elle devienne vraiment une parole de vie. Tu dis qu'elle est comme un feu, comme un marteau qui fait éclater le rocher. Seigneur, peut-être il faut que tu viennes encore marteler des vérités dans nos vies pour faire éclater des résistances, pour parfaire la personnalité de Jésus. On est tous en chemin, Seigneur, et tu te décourages pas, tu marches à côté de nous, tu fais brûler nos cœurs, et tu nous emmènes de victoire en victoire, toujours plus à la ressemblance de Jésus. On est là comme des enfants, on veut accueillir ta parole, parce qu'elle est bonne pour nous, Seigneur. Amen. Amen. J'espère que ce petit parcours sur le sermon sur la montagne, et puis, dimanche passé, on a fait une pause sur la montagne. Vous fait du bien. Je pense à ceci, et je m'arrête peut-être sur ce qui était partagé la semaine passée. J'espère que ça devient de plus en plus facile pour nous de nous approprier qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est le cœur de la vie chrétienne. Avant toute chose, on a besoin de fixer nos yeux sur lui et de repérer qui il est, ce qu'il a vraiment fait pour nous. Et on comprend que le mot-clé du Sermon sur la montagne, c'est extraordinaire. Avant de nous appeler à une vie extraordinaire, d'abord, j'ai besoin de m'approprier le côté extraordinaire de Jésus. On a loué son nom et je pense que l'intensité de notre adoration, elle dépend de notre... de l'intensité de notre compréhension de qui est Jésus. Ce qu'il a fait est vraiment extraordinaire. On est vraiment devenu enfant de Dieu. On a vraiment été justifié, vraiment adopté, vraiment rendu enfant de Dieu. Et on a besoin de revenir sans cesse sur cette vérité. Comme Jean disait, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est vrai, nous le sommes. Et à partir de ce revêtement, de ce que nous sommes devenus, je peux laisser cette grâce, cet amour irradier toute ma vie. Il n'a jamais été question pour Jésus simplement de nous dire « Allez, vivez d'une telle manière, visez un comportement hors catégorie, extraordinaire, par vos propres forces. » Non, c'est parce qu'il vient nous revêtir de sa personne. Parce qu'il s'est identifié à nous, il nous a unis à ce qu'il est, pleinement. Et le chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui était métamorphosé. C'est quelqu'un en qui le Christ vit. Et par cette vie, l'extraordinaire peut irradier dans mon couple. Sur mon lieu de travail, dans l'église, partout où je vais, je peux laisser transparaître. Et tout le sermon sur la montagne nous montre ce que ça signifie. Jésus, la lumière, fait de moi une lumière. Et ma vie peut illuminer. Elle peut vraiment donner du sel. Ma parole peut être vraie, elle peut être authentique. Je peux aimer même mes ennemis. Je peux les bénir, je peux leur faire du bien. Pourquoi ? Parce que le Christ m'a revêtu de tout cela. Ok ? L'extraordinaire, c'est la marque de fabrique de l'Église. C'est ton appel. C'est ton appel. Une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. un ministère, comme Noé, comme tant d'autres, marqué par la vie de Christ. C'est ton appel, c'est notre appel. Là où on est si souvent sur des terrains ordinaires, par la vie de Jésus en nous, il peut briller et faire quelque chose d'extraordinaire. C'est là où nous sommes appelés. C'est la marque de fabrique. Alors, on va aller encore un peu plus loin. Je réalise qu'en disant cela, c'est un peu dangereux. Et surtout avec la mentalité actuelle. Parce que il suffirait de monter un peu dans les décibels, mettre peut-être à l'équipe technique un peu plus de spots, peut-être un peu de fumigène, hein, peut-être un costume peut-être plus moderne. Et alors là, on sent l'effervescence, quoi. D'accord ? Ouais, l'extraordinaire, hein. Et on va faire chauffer la température et nous faire croire que voilà, on va planer ici les gaz. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai. Ce que nous sommes, ce que le Christ est, ce que nous sommes en lui. Mais le danger, ce serait de nous déconnecter de la réalité de notre vie de tous les jours. Ce que je suis en train de dire, ne croyez pas que quand on parle de l'extraordinaire, ça nous sépare de la réalité brute de notre existence. De tout cet âge, je ne vais pas dire rébarbative, mais parfois un peu insipide, habituel. Et qui forme quand même une grande partie de notre existence. Et il faut corriger les devoirs. Hein. Dernièrement, on se disait, mais wow, c'était une période début septembre où il fallait recouvrir les cahiers, aller acheter tout ce qu'il fallait. Voilà, et l'année prochaine, il faut refaire, et il faut éplucher les pommes de terre aujourd'hui, et puis peut-être demain aussi, les bons belges. Des habitudes tellement ordinaires. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut bien équilibrer le discours parce que l'extraordinaire vient rejoindre notre ordinaire. Et je ne voudrais pas qu'on soit déconnecté de la réalité de notre vie. Là où le Seigneur nous appelle aussi à le servir. Et sur le chemin quotidien de notre existence. Et vous savez, dans toute la littérature, dans toutes les langues, pour parler de la vie, on a parlé du chemin. C'était quelque part l'image la plus fréquente pour parler de l'existence humaine, le chemin. Et on va voir dans le texte que Jésus le fait. Mais je me souvenais nombre de fois quand tous les enfants étaient encore à la maison, il y en a encore, hein, mais nombre de fois on a utilisé ce genre d'expression. Où on parlait du chemin. Quand il vivait des temps difficiles, on disait, bon, allez, c'est le parcours du combattant, là, pour l'instant. Hein. T'es dans la vallée, hein, pas de l'ombre de la mort, mais t'as la vallée des examens. Hein, tu traverses un peu le désert. C'est Pauline qui sait bien que je lui ai dit tellement souvent, allez, que c'était période d'examen. T'es dans la dernière ligne droite. Allez, courage, dernière ligne droite. Elle est longue, oui. Surtout que parfois, on peut refaire la ligne droite. Hein. Et puis, quand on allait chercher les bulletins, on dit, ça y est, c'est le chemin de la gloire. Hein? Quand ils étaient malades, on essayait de les encourager en disant, allez, t'es sur le chemin de la guérison. Le chemin, hein, t'es sur la bonne voie. Il nous arrivait de devoir leur dire, par rapport à certains choix, attention. Tu es en train de suivre des voies tortueuses. On les entendait eux-mêmes, remplis parfois de vengeance, se dire entre eux, je te rattraperai au prochain tournant. Et ils l'ont dit. Peut-être on l'a dit aussi. Comme on avait certains timides, ils sont venus me trouver en me disant, papa, comment je peux déclarer ma flamme à celle qui... Je dis, écoute, propose-lui de faire la route ensemble, en lui disant que nos chemins ne vont jamais se séparer. Il y a eu des moments où on leur disait, mais tu es à un carrefour de ta vie. Et puis, on reprenait cette parole de Sartre, chaque homme doit inventer son chemin. On utilise beaucoup hein, l'expression du chemin. Mais vous savez, Jésus l'a fait. Parfois, comme avec les petits moutons, pour parler de choses simples, profondes, mais dans le sermon sur la montagne, il va parler aussi du chemin, et peut-être on va moins plaisanter. On va garder la bonne humeur, mais vous allez voir que, waouh, ça devient vraiment solennel. Jésus était très très fort pour ça. Utiliser des langages tout simples et en donner une profondeur, une solennité, une interpellation vraiment importante. On va lire deux versets dans le sermon sur la montagne, on arrive tout doucement à la fin, même si Jérôme reviendra un peu sur le début du chapitre 7, parce qu'il n'a pas pu tout voir sur les relations les uns avec les autres, donc il reviendra sur cela aussi. Chapitre 7, versets 13 et 14. Un texte que, bah, c'est vrai, nous connaissons bien. On va essayer de le laisser faire son œuvre en nous. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, et spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Alors comme il n'y a que deux versets, peut-être on va le relire. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Waouh! Tout de suite, ça crée un autre climat. Waouh, c'est interpellant quand même. Hein? Nous qui nous imaginions toujours Jésus ne dire que « Allez, venez à moi ». Il a dit, il a accueilli. Mais il y a eu ici des paroles tellement, tellement fortes. Je voudrais qu'on regarde cela en deux temps. On va regarder la destination du chemin et peut-être un peu la description du chemin. D'abord, la destination. Chaque fois qu'on descend dans le sud, moi j'aime quand on arrive après Paris, ou même si on évite Paris, à la 6 et puis la 7. Et puis si vous faites attention, il y a un grand panneau qui dit « Vous êtes sur l'autoroute du soleil ». Oui, péage, oui, ça va bientôt. Un volet de soleil, vous allez payer. Hein. Waouh, ça c'est bon ça. On est sur l'autoroute du soleil. Vous imaginez être parfois sur une autoroute et vous voyez une indication « Vous n'êtes pas sur l'autoroute du soleil. Vous allez vers la pluie ». Ah, c'est bon, un chemin qui conduit vers le soleil. Posons-nous une question simple. C'est quand même ce que Jésus dit, là, ce n'est pas de la haute théologie. Hein. Mais on va quand même... Posons-nous la question, comment évaluer une route? Comment évaluer un chemin, un itinéraire? Alors, je pense, en effet, quand vous descendez, vous allez un peu plus loin, comme ça, vous regardez les péages. Est-ce qu'on a les moyens de descendre jusque-là? Combien ça va coûter? Peut-être pour ceux qui ont un problème aux yeux, est-ce que c'est éclairé? Est-ce que je vais rouler de jour? Est-ce que c'est suffisamment deux bandes, quatre bandes? Ou est-ce que ce sont des petites nationales? Est-ce que la route est récente? Hein, en Belgique, c'est vraiment important. Comment est-ce que j'évalue le chemin? Toutes ces questions sont certes importantes, et pourtant, je crois que le point essentiel, c'est la destination. Oui? Tant mieux si on ne paye pas. Tant mieux si l'asphalte est nouveau. Tant mieux s'il y a des aires de parking avec des jeux pour les enfants. Tant mieux. Mais quand même, le plus important, c'est quand même la destination. Où est-ce que cette autoroute me conduit? Où est-ce que je vais arriver? Est-ce vraiment le chemin le plus court? Hein, la destination. Et on comprend que ce petit proverbe qui dit « Toutes les routes mènent à Rome », c'est pas vrai. Si tu vas à la Côte d'Azur et que tu commences à voir comme indication Amsterdam, oui, Copenhague, tu vas faire un fameux tour, hein ? Destination. Quand Jésus compare nos vies à des chemins, parce que c'est ça qu'il fait, il va regarder aussi à l'essentiel, à la destination. C'est ça que Jésus fait. Il parle de nos vies comme des chemins, comme des routes à emprunter. Et ce qui l'intéresse, c'est pas d'abord l'état de la route, c'est pas les péages, c'est pas ce que tu fais sur la route. Mais quelle route ? Quelle destination ? C'est par rapport à ce critère que Jésus examine la vie de l'homme. Et ce qui est frappant, c'est que pour Jésus, il n'y a pas 36 destinations possibles. Il n'y a pas une panoplie de directions. Pour Jésus, et pour nous, lecteurs modernes, ça nous choque un peu, dans notre culture. Paul Naref nous avait dit, une route. Et dans notre société, il y a plein de routes possibles. Mais Jésus dit, il y en a deux. Vie éternelle ou mort éternelle. Les destinations de nos vies se limitent à cela, nous dit Jésus. Soit je suis sur l'autoroute de la vie, l'autoroute du soleil, ou soit, Jésus dit, je vais vers la perdition. Un enfant peut comprendre ça très simplement. Après la mort, deux possibilités. Même pas un espace où je peux réparer un peu toutes mes petites bêtises, où je vais purger. On connaît la mort ou la vie. Et si je suis sur l'autoroute de la mort, j'aurais beau dire, oui, mais t'as vu l'éclairage? T'as vu l'asphalte? Et on paye pas! Il y a des petits endroits où tu peux bien manger. Oui, ok, c'est super. Mais la destination, c'est quand même la mort. Alors, derrière cette utilisation toute simple de l'image du chemin, voilà, on est placé devant une réalité quand même vraiment incontournable. J'ai envie de dire, devant un choix vraiment capital pour nous. Tout simple, mais en même temps, il faut que je choisisse, quoi. Déjà, tous arrivés, vous êtes là, devant des bretelles d'autoroute, des échangeurs, et il faut choisir. Oui. Ce que Jésus nous dit, c'est que la vie de l'homme, quelque part, c'est simple. Il y a un choix fondamental, capital, que tu le veuilles ou non. Il n'y a personne qui dit, non, moi, ça, c'est pas pour moi. Pour vous, oui. Mais j'ai même envie de dire, que tu le saches ou pas. Bien sûr, c'est que le Saint-Esprit va. Que tu le saches ou pas, tu es en train de choisir. Tu as déjà choisi. Tu peux bifurquer, ok. Mais que tu le veuilles ou non, que tu aies décidé ou pas, nos vies s'acheminent lentement, mais sûrement dans une direction ou dans une autre. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Par ma naissance, par la contamination qui était en moi, ma famille avait déjà choisi. Nous avions choisi la destination, qu'on le veuille ou non. Tu peux t'arrêter de temps en temps sur la route, prendre du repos, prendre des bons moments. Mais quand même, tu reprendras la route vers la vie ou vers la mort. Et je me dis, pour nous tous, c'est utile de savoir dans quelle direction nous allons. Il n'y a quand même pas de choix plus important. Et donc c'est pour ça qu'on ne veut pas un climat juste de l'effervescence pour de l'effervescence. Et c'est sympa d'être dans la joie, de penser à l'extraordinaire. Oui, mais il faut que je garde bien les pieds sur terre, être bien sûr que je suis sur la bonne voie. Quelles sont les indications que tu vois dans ta vie ? Route vers le soleil, route vers l'éternité avec le Seigneur, ou pas. peux pas m'imaginer. Pourtant, on connaît des personnes comme ça. Et peut-être il y en a parmi nous qui se disent « Ouah, peu importe. Peu importe où je vais, j'y vais. Je construis ma vie comme ça, quoi. Je suis plongé presque dans un présent absolu. Qu'importe où on va. Je roule, je vis, je profite du voyage. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des destinations ? Quelle folie ! Jésus nous assure qu'il y aura toujours un aboutissement à notre vie. Jésus dit cela. La semaine passée, bon, c'était sans gravité. En tout cas, il y aura un traitement. Nos beaux frères ont pris un infarctus. Il est un peu plus jeune que moi. Et il me disait, il aurait pu partir. Peut-être je peux partir aussi. Du jour au lendemain, la route terminée. Pour moi, la destination. Est-ce que j'aurais bien choisi ? Est-ce que c'est pas tout dire, bon, qu'importe, de toute façon, je roule. Peut-être certains se disent, oui, mais ça, c'est typique des religieux. Hein. C'est digne du Moyen-Âge. L'autoroute vers la mort, est-ce que ça existe vraiment ? Et ça, autour de nous, c'est très fréquent. Moi, je crois que tout dépend du crédit que j'apporte à Jésus. Du crédit que j'apporte à ce qu'il me dit. Est-ce que je crois ça ? Sinon, laisse-moi te poser la question, tu vas croire qui ? Tu vas demander à qui de répondre à cette question-là ? C'est fou de voir parfois l'être humain, on se gonfle, on est rempli d'orgueil. Moi, je sais. Quel est le fondement ? Quelle est l'autorité ? Qu'est-ce que tu sais vraiment ? Qui tu vas croire ? C'est étonnant quand on lit l'Évangile de voir que Jésus est celui dans la Bible qui a le plus parlé de l'enfer. Le mot enfer n'est pas utilisé. Mais la réalité, l'image du feu, d'un lieu de remords, d'un lieu où Dieu, bien sûr Dieu est toujours présent, mais où Dieu ne se manifeste pas. Donc ça veut dire un lieu où il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de joie, un lieu de regret, un lieu de profonde tristesse. C'est étonnant que c'est Jésus qui en a parlé le plus. Moi je pense que le Père ne voulait pas confier cette révélation aussi profonde à d'autres qu'à Jésus. Les autres en ont parlé, mais autant, il n'y a que Jésus. Lui qui dit, mais moi je viens d'en haut. Moi je peux vous parler des choses d'en haut. Lui sait. Je peux recevoir de lui. Il n'avait pas besoin de diplôme d'Harvard. Diplôme du ciel. Et lui pouvait nous dire, deux chemins. Pas 36. Deux chemins. Je me souviens, on était sur l'île d'Oléron il y a quelques années. Belle petite île, pas très grande, 30 kilomètres. Une route, il y avait plusieurs petites communes, mais une route principale avec deux bandes, une qui allait vers le nord et l'autre vers le sud. Deux. C'est ça que Jésus nous dit. Une route qui va vers le ciel, qui va vers une éternité avec moi. Et une autre, pas 36, une autre, qui va vers la perte. Alors, comment savoir avec certitude si j'ai pris la bonne direction, si je me dirige vers la vie éternelle ? C'est ici, je crois, qu'on réalise que Jésus, en fait, est le seul qui puisse vraiment utiliser cette image de la portée du chemin. On peut l'utiliser pour les banalités de la vie, mais je crois qu'il est vraiment le seul, lui qui vient d'en haut, qui peut nous parler avec assurance, sur lequel on peut vraiment s'appuyer, il est le seul. Et vous savez pourquoi ? Parce que d'autres passages de l'Évangile, il a dit « Moi, je suis le chemin ». Personne n'a jamais dit ça. Encore, quelque chose de tout simple. Hein ? « Moi, je suis la porte ». Regardez Jean 10 et Jean 14. « Je suis la porte. Celui qui passe par moi aura la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'ira au Père que par moi. » Jésus pouvait dire ça. Personne d'autre. Personne d'autre. Et je peux le croire comme un enfant. Et parfois, pour nous, hein, breveté d'issue, c'est difficile de faire confiance. Il faut qu'on me prouve. Jésus dit, moi, je suis le chemin, je suis la vie. Ce qui veut dire que la route qui mène au ciel, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas des rites. Ce n'est pas une série d'œuvres. Ce n'est pas un développement personnel. C'est une personne. C'est ça qu'il est en train de nous dire. La vie, le chemin, la porte, c'est une personne. C'est lui. C'est lui. Jean, dans son prologue, dira « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Il est la vie. En fait, ce que Jésus dit, c'est que le chemin qui mène à l'accomplissement, à la vie, c'est lui. C'est une question de relation à lui. C'est une question de l'avoir découvert, de l'avoir accepté. C'est ça qu'il est en train de dire. Je suis la vie. Étudiez tout ce que vous voulez. Jamais personne n'a dit ça. Et c'est pour ça qu'on l'a crucifié. C'était insupportable pour la caste religieuse que quelqu'un puisse dire « en dehors de moi ». Pas d'issue. Ça, c'est l'indication capitale pour notre destination éternelle. Où est-ce que tu en es par rapport à Jésus ? Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu l'as rencontré ? Est-ce que tu as eu un rendez-vous devant la croix où tu as réalisé que tu faisais fausse route ? C'est pas... Oui, c'est humiliant. Quel que soit notre âge. Un enfant... J'ai vu des enfants pleurer. Ils n'ont pas fait beaucoup de bêtises. Et quand même... Et ils avaient besoin du pardon. Et des vieilles personnes qui rencontrent Jésus peut-être au seuil de leur vie, qui disent « Je m'étais trompé. J'ai péché, j'en ai fait à ma tête. Mais je réalise qu'à la croix, la porte s'ouvre. Le chemin de la vie s'ouvre. Je reçois la vie par Jésus. » Ce qui veut dire que c'est aussi dans notre culture, c'est, faut oser le dire, c'est tout ou rien. C'est pas qu'on est en train de dire le protestantisme ou rien. C'est Jésus ou rien. Parce que lui, il a dit c'est la vie. Et on ne peut pas gommer ça dans l'Écriture. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Il a peut-être une belle bagnole, il a peut-être réussi super bien sa vie. Cette parabole que Jésus dit, ouais, mais ça sert à quoi de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Ne craignez pas les hommes qui peuvent peut-être vous faire mourir, mais qui ne peuvent pas après déterminer où vous allez passer l'éternité. On a beau nous chanter sur tous les toits, dans toutes les universités, toutes les facultés, tous les séminaires, à la télévision, au nom de la tolérance, au nom du pluralisme religieux, philosophique, que tout est vrai. Ça, c'est très à la mode. Hein. Des petites pierres énergisantes, de tout, hein. Et tout te conduira dans l'océan de là. Non, ça c'est faux. Je ne dis pas que tout est faux. Mais au niveau de la destination de l'éternité, si tu ne passes pas par Jésus, je pense ce texte est très clair. Deux chemins. Paul, j'aime ce texte dans l'Épître aux Colossiens, dit « Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de la croix. Parce que c'est Dieu qui est venu. Il n'y a que ça qui pouvait nous réconcilier. Il y a des années, j'étais encore enfant et un de mes cousins a été frappé d'une leucémie foudroyante. Et je sais que mon oncle et ma tante ont beaucoup cherché au niveau traitement. Mais il n'y avait qu'un seul donneur de moelle épinière qui pouvait sauver mon cousin. C'était son frère. Un seul don. Et il a survécu. Un seul don. Une seule œuvre. Pas l'institution Église, Jésus. Parce que c'est Dieu qui est venu. Dieu qui est venu, qui a pris notre place, qui a réglé la question du péché à la croix une fois pour toutes. Deux routes, deux destinations. Ça vaut la peine que tu ne te laisses pas griser par la route, par les activités, par tes responsabilités, mais que tu te positionnes. Et que tu sois bien sûr que tu l'as rencontré, que tu vis avec lui, que tu es en route vers l'éternité. Ne remets pas ça à demain. Parce que peut-être la semaine prochaine, on doit annoncer. Mais, avec le temps qu'il nous reste, je voudrais encore voir peut-être deux choses. Parce que je crois que je m'adresse à beaucoup de personnes qui ont choisi l'autoroute du soleil, l'autoroute de la vie. Mais ce texte a d'autres choses encore à nous enseigner. Et je crois que je voudrais dire encore deux choses pour terminer. Souvent, on l'oublie cela. La vie chrétienne, la marche sur le chemin de la vie, c'est une vie en Christ. Je voudrais nous rappeler cela. Ce chemin de la vie, c'est pas juste que lors d'une croisade, d'une rencontre d'évangélisation, j'ai rencontré le Christ, et puis on se reverra. Non, la vie chrétienne, c'est une vie en lui, pour lui et avec lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Fixez les yeux sur Jésus. Il est celui sur qui nous fixons les regards. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut mettre un crucifix dans toutes les pièces? Ce n'est pas ça. C'est celui pour qui nous vivons, c'est celui avec qui nous vivons. Là, parce que tantôt, le Seigneur nous parlait des disciples d'Emmaüs, ben, tu peux monter sur un terri, tu peux monter, et physiquement, il ne sera pas là. Et pourtant, la réalité de nos vies, c'est que nous pouvons cheminer avec lui. Et c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas juste, voilà, je suis monté sur l'autoroute, et puis on se reverra à Saint-Tropez. Non, non, c'est une marche en lui. Il avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui veut me servir, qu'il me suive. La vie chrétienne, c'est une vie en Christ. C'est une vie où je développe une communion. Il est le centre de ma vie. Et j'aime ce texte de Philippiens 3, où Paul dit, avant, il y avait plein de choses qui faisaient ma carte de visite. La gloire de ma chair, de ma nature humaine. Mais quand j'ai rencontré Jésus, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et c'était quelqu'un, mes amis, tantôt, Chiara nous parlait de David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais dans cette génération-là, un homme sur lequel le peuple d'Israël comptait, c'était Paul, un brillant universitaire qui dépassait tous les jeunes de son âge. Et pourtant, il dit, quand j'ai rencontré Jésus, c'est pas que je vais fixer rendez-vous au bout de ma vie. Mon but, c'était lui. Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Mon but, c'est de le connaître. Et je voudrais nous rappeler ça. Jésus, ce n'est pas la parenthèse du dimanche. C'est la parenthèse de ma vie. Demain matin, tu te lèves. Tu ne continues pas la chanson. Parce que comme d'habitude, tu rencontres Jésus. Émerveille-toi, viens le rencontrer. Mets-toi à ses pieds. Peut-être que tu es un peu chaos. Il le sait, il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Il avait quelque chose pour Marie. Il avait quelque chose pour cette femme soi-disant pécheresse. Il avait quelque chose. Notre vie, elle est centrée sur Jésus. Une communion avec Jésus. Le but de notre existence, décidé par le Père, c'est de nous rendre comme lui. Mais pas, c'est pas une question de cheveux. C'est tellement on va être proche que je vais prendre le même accent que lui. Le même regard que lui. Même attitude intérieure, Philippiens 2. Ayez en vous les dispositions qui étaient dans le Christ. Comment? De par la communion. La densité de notre vie, cela dépend de la densité de notre relation avec Jésus. Et sur ce chemin-là, il n'y a personne qui peut dire, « Moi, ça va, j'ai déjà atteint le sommet. Tu vas voir la Trinité, puis il y aura juste moi à côté. » On est tous en chemin, on peut tous aller plus loin. On était des enfants spirituels. On devient des jeunes gens et on doit devenir des pères et des mères qui vont guider, qui vont bénir les autres. J'ai besoin de contempler Jésus. Adoul, il y a des Adoul hein, aujourd'hui, pas Abdoul, André Adoul, il y a des années, avait écrit, en parlant du Saint-Esprit, c'est un livre sur sa présence, il parlait de Jésus aussi, mais c'était le grand absent. Il ne faut pas que Jésus soit le grand absent, celui qui observe nos vies de loin, mais notre compagnon. Sur ta parole, Seigneur, je ferai ça. Vraiment besoin de développer. Et puis je termine. On a vu la destination, juste quelques mots sur la description du chemin. Je trouve ça aussi intéressant. Petite image, toute simple, mais deux chemins. Bon, description, la route vers l'enfer. Alors nous, on se dit, oh, une route vraiment à l'image de certaines routes chez nous, quoi. Abîmée, difficile, tortueuse. C'est étonnant, Jésus dit non. L'asphalte est impeccable, large, c'est éclairé, et il y a du monde. Il y a du monde. Ça semble vraiment bien, quoi. Il y a des aires de stationnement, le carburant est gratuit. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à travers cette image ? Il me semble que le mot permissivité va peut-être, en tout cas pour moi, peut-être le mieux résumer. Sur cette autoroute-là, il n'y a pas de code de la route. Tout est permis. Tu fais comme tu veux, quoi. Tu fais comme tu veux. Tu suis les indications de ton cœur, de tes désirs, de tes pensées. Vie pour toi. Laxisme. Route de la perdition. Je décide. Il y a quelques jours, c'est la première fois que j'ai vu ça, un rond-point à Charleroi, quelqu'un qui n'a pas pris le temps de faire, il avait raté la sortie, quelqu'un avait refait le tour, après 15 secondes. Ah non, il a fait demi-tour dans le rond-point. Waouh, ça c'est la première fois que j'ai vu ça. Fais ce que tu veux, quoi. Chez nous, dans notre région, on voit régulièrement, vous avez un rond-point, et il y a une sortie, il y a deux, trois sorties. Ce qu'on voit très souvent, c'est que les gens n'ont pas le temps de faire le tour. Un, deux, trois, ils vont directement à gauche. On fait ce qu'on veut. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est... Description du chemin. Je décide mes valeurs. Tu ne vas pas imposer à mon corps quoi que ce soit. Je décide. Si je veux tuer, je tue l'embryon. Ça, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tout est chaos. Non, dans sa grâce, Dieu préserve quand même le monde. Mais quand même, sur cette route, je fais ce que je veux. Description donnée par Jésus. Si tu es là, profite du moment pour sortir et viens à Jésus. Et puis, deuxième chemin, chemin de la vie. On va s'arrêter avec ça. C'est un peu décourageant. Alors, on allait s'attendre à ce que Jésus nous fasse une description glorieuse. Hein ? C'est pas vraiment ça. Un sentier étroit, une porte, une petite porte. Quand vous êtes grand, passer par une petite porte, c'est... Et les auditeurs pouvaient comprendre qu'à Jérusalem, dans la muraille, il y avait des petites portes. Où il faut s'humilier. Un sentier étroit. Probablement que Jésus aurait pu continuer à dire « rocailleux, ça va être pentu, parfois des ravins. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Pourquoi, Jésus, tu décris la vie avec toi comme ça ? Tu n'as pas envie que les gens viennent, là ? Jésus est vrai. Alors, tout ce qu'on a dit sur Jésus, c'est vrai. C'est l'autoroute de la vie, tu es vraiment béni, tu es vraiment aimé, tu es vraiment en sécurité. Mais sur terre, notre route avec lui, globalement, sera une route parsemée de difficultés. Il y aura de l'opposition. Jésus l'a dit avant de partir, vous aurez des tribulations. Il y aura de l'opposition. Et je trouve ça tellement, tellement bon. Jésus il dit la vérité. Il ne va pas tourner autour du pot. Me suivre, ça sera un chemin difficile. Déjà que tu étais habitué à suivre ton code de la route, maintenant tu vas suivre mon code de la route. Donc, je pense que l'idée première, c'est qu'avec moi, il y aura de l'opposition. Avant, beaucoup allaient dans le même sens que toi. Jésus disait à sa propre famille, mais vous, le monde ne peut pas vous haïr, parce que vous avez le même principe. Mais quand ce qui te dirige est différent, il y aura de l'opposition. Et puis, en moi, il y a tellement de désirs qui sont contraires. J'ai appris à grandir en obéissant à mes instincts. Donc, il y aura des combats contre ma propre chair. Mais je voudrais m'arrêter juste avec ceci. C'est que le code de la route va changer. Ça sera le code de route du Christ. Ça sera sa volonté. Et ça, souvent, Jésus l'a dit. Tu veux me suivre ? Tu veux marcher avec moi ? Je prends un ou deux exemples. Tu vas m'aimer plus que tout. Prenons ça. Souvent, Jésus l'a dit à ses disciples. Tu vas me préférer à tout. C'est-à-dire que sur cette route, il y a un côté un peu choquant. Ça ne veut pas dire que je vais haïr les autres. Mais il y a une suprématie, il y a une part de mon cœur qui est d'abord donnée à Jésus. Il y a quelque chose de choquant dans notre existence. Je le préfère à lui. Cette semaine, je téléphonais à un ami pasteur pour de ses nouvelles et je me demandais comment ça allait. Sa communauté dit « Oui, ça va, l'après-Covid. » Mais il dit « Mais je suis étonné. » J'ai quand même l'impression maintenant, il a parlé que du culte, que les gens viennent à l'église quand il n'y a plus rien d'autre à faire. Alors on va à l'église. Et je réfléchissais à ça, j'ai dit, mais ça c'est pas le code de la route sur notre route. Alors je ne dis pas que venir à l'église, c'est le sommet de la vie chrétienne. Pas du tout. C'est le béaba. Le Seigneur nous attend. Il y a beaucoup d'autres appels, d'autres exigences. Mais j'ai besoin dans ma vie, pourquoi est-ce que je dis ça? De préférer Jésus à tout. Parce que si tu fais pas attention, il y aura toujours bien quelque chose qui va passer avant Jésus. J'aurai encore du travail, j'aurai encore ceci à faire, et j'aurai encore ceci. Le commandement le plus rappelé dans l'Écriture, vous savez lequel c'est? C'est le sabbat. Signe d'alliance. Il y a un jour où tu t'arrêtes. Et nous, parfois, on dit, oui, mais nous, c'est la grâce. Et donc, c'est très aléatoire. Mais Jésus est plus exigeant sur sa route. Tu vas m'aimer, et en fait, il va même choquer. Et tu dois haïr ton père, ta mère. On sait que l'idée, c'est, tu vas me préférer à tout. Dans ton agenda, dans ton cœur, dans ta passion, je dois être toujours numéro un. C'est pour ça que dans la première lettre, écrite aux sept églises de l'Apocalypse, à Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Ce qui caractérise la vie sur ce chemin, c'est d'abord un chemin de passion avec Jésus. Et d'autres choses qu'on pourrait ajouter. Et c'est pourquoi cette route sera, Jésus dit, un chemin étroit, un chemin exigeant, où c'est lui le maître. Mais c'est un bon maître. Et la Bible dit que sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Même si ça te semble difficile, difficile d'être honnête, difficile de persévérer dans ton engagement, difficile d'aimer, continue. Parce que nous regardons à la destination, pas juste aux avantages immédiats. Étienne aurait pu dire, oh là, ici ça commence à sentir le vinaigre. Donc, allez, une petite bretelle, on sort et on continuera plus tard. Étienne, sois fidèle jusqu'au bout. Prêche l'Évangile. Vis l'Évangile. Chemin de la vie. Notre danger, c'est avec le temps de nous arrêter ou de croire que je peux aménager le code à ma manière. Et avec les quelques années d'expérience, je voudrais nous dire que Je crois que ça, c'est le plus grand péril qui a toujours existé, mais qui était moins présent il y a quelques années. Où aujourd'hui, on fait une vie chrétienne à sa mode. Ça, c'est le grand danger de l'Église. Hein, je choisis moi-même. Jésus a dit, tu vas me suivre, tu porteras ta croix. Aujourd'hui, notre danger, c'est je vais choisir les croix. Ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus a dit, viens me rencontrer dans la parole, qu'elle habite abondamment. Il savait bien que tu n'aimais pas la lecture. Ce n'est pas grave. Parce qu'il va te rencontrer. Je n'ai pas à décider moi-même les fondamentaux. S'il a dit on roule à droite, c'est à droite. Tu peux rouler à gauche. Hein. À mon avis, tu ne vas pas rouler longtemps. Méfions-nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. C'est jamais pour nous faire du tort, jamais pour nous abîmer. Il connaît la route. Choisis la vie. On voit ça partout dans l'Écriture. J'ai mis la vie et la mort devant toi. Choisis. Et accepte cette route. Même si tu ne comprends pas tout, vas-y, marche. Alors je conclue. C'est étonnant de voir que les verbes sont à la voix active. Entrez. Marchez. Ça va vous conduire. Il y a vraiment l'idée d'une détermination, d'une résolution. Ne t'arrête pas en chemin. Continue. Il sera avec toi. Et il y aura toujours le carburant qu'il faut. T'inquiète pas. S'il y a des moments où tu as l'impression qu'on est peu nombreux, quand même. Enfin, je me souviens, quelqu'un était venu me trouver. « Oh, j'ai une vision de la part de Dieu. On sera très, très peu au ciel. » Il me semble quand même dans l'Écriture, on ne sait pas les compter. On va être très, très nombreux. Hein? Mais peut-être que dans ta situation, dans notre contexte, on a l'impression d'être peu. Allez, continue. Continue. Te laisse pas impressionner. Marche. Entre. Sois déterminé. Paye le prix. Paye le prix. C'est bon. Ce texte peut nous aider parce que il nous recentre sur la route. Hein, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais souvent les enfants pensent que quand on est sur une ligne droite, bon, on peut lâcher le volant. On va toujours être... Vous savez comme moi qu'il faut sans cesse recentrer. Que ce texte nous aide à nous recentrer sur Jésus. Sur Jésus. Une profonde communion avec lui. Une profonde intimité. Choisis la vie. Si tu n'y es pas encore, viens à la croix. Reconnais ton entêtement, ce que la Bible appelle ton péché. Reçois le pardon, viens à lui. Et si nous y sommes depuis bien longtemps, respectons son code de la route qui est bon. Il est bon pour chacun d'entre nous. Ça va nous conduire à porter du fruit et à la vie. Regarde la destination, c'est ça le plus important. Regarde pas le nombre de kilomètres qui restent. Regarde pas la tâche qui t'est confiée. Aujourd'hui, roule, avance. On se lève ensemble, on va prier pendant que les musiciens reviennent. Seigneur, nous te remercions parce que tu es clair, simple, précis. Et tu n'as pas peur de nous placer devant nos responsabilités, devant le poids de notre vie, les conséquences pour aujourd'hui, mais pour l'éternité de notre existence. Tu ne veux pas qu'on ne regarde que à ici et maintenant. Tu veux qu'on lève la tête parce que tu dis que tu reviens bientôt. Seigneur, peut-être moi je te rejoins demain. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons faire route avec toi. Quelle que soit l'inclinaison de la route, Seigneur, quelle que soit l'aridité, nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons simplifier nos vies, Seigneur, pour que rien ne voile ta face. Brille sur nous, Seigneur. Laisse ton visage illuminer toute notre existence pour que nous marchions avec toi, jour après jour, pour ta gloire. Aujourd'hui, nous décidons, nous recevons, peut-être pour certains, pour la première fois, ton pardon, ta vie. Viens habiter en nous et conduis-nous maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.